musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Mercredi, Je vous dis pas, bonjour, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma LA en compagnie de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour Roland, coucou tout le monde.
Et de Philippe, bonjour Philippe.
Bonjour.
Et on commence ces projections avec la bataille géante de boules de neige, Philippe.
Ah bah oui, cette saison un peu, hein. Enfin, même s'il n'y a pas encore beaucoup de neige. C'est un film d'animation québécois, voilà, là il y a de la neige là-bas forcément. C'est réalisé par Jean-François Pouliot et c'est un remake d'un film de 1984 qui s'appelait La guerre des Tuques. La guerre des Tuques. Alors au Québec, la bataille géante de boules de neige s'appelle aussi la guerre des Tuques parce que les Tuques pas en japonais, en québécois, un tuc c'est un bonnet. Mmh. Voilà, les gros bonnets de neige, c'est un tuc. Et donc c'est la bataille, la guerre des Tuques. Avec les voix en français des Kids United, voilà, qui font les voix des enfants qu'on retrouve dans le film, parce qu'il n'y a pratiquement que des enfants dans ce film. Hein. C'est vrai que quoi de mieux qu'une bonne vieille bataille de boules de neige, hein.
C'est sympathique,
ouais,
c'est drôle.
Dans la neige et tout, pendant les vacances d'hiver.
Enfin, c'est drôle à la neige.
Oui, forcément. Donc on a Luc et Sophie qui sont un peu les deux généraux de leurs armées d'enfants. Voilà, ils ont créé tous les deux... leurs deux clans et puis ils s'envoient leur boules de neige. Alors c'est une petite bataille un peu bon enfant comme ça, mais qui devient fur et à mesure avec Luc là qui est en train de faire son général et tout, ça devient un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent quand les enfants ont décidé finalement de détruire le, ils avaient fait un château fort et tout, enfin voilà, ils ont tout cassé et tout ensemble. Et puis c'est mieux que de se faire la guerre forcément, hein.
On est bien d'accord.
Donc voilà, c'est un film comme ça, très drôle, avec des enfants qui font des batailles de boules de neige.
La bataille géante de boules de neige à découvrir ce mercredi 21 décembre dès 16h au cinéma LA, ou bien le samedi 24 décembre aussi à 16h et le mardi 27 décembre aussi à 16h. Demain, tout commence, Philippe, une comédie française pour la suite.
Ouais, ça tourne aussi un peu autour des enfants, hein. C'est une comédie dramatique franco-britannique réalisée par Hugo Gélin qui avait réalisé en 2012 Comme des frères. Voilà. Eh bien, il nous sert aujourd'hui un remake d'un film mexicain qui s'appelait Ni repris ni échangé, qui était sorti en 2013. Et donc, on retrouve Omar Sy, Clémence Poésie et Clémentine Célarié dans ce film. Demain, tout commence. Donc, on suit Omar Sy qui joue le rôle de Samuel Abili. Il vit tout seul au bord de la mer, dans le sud de la France. Il se prend pas la tête. Il est avec ses potes dans une maison. Enfin, voilà, ils sont tranquilles.
C'est les vacances.
Ouais, voilà, c'est les vacances toute l'année, en fait, pour lui. Jusqu'au jour où une de ses ex va débarquer. Et puis, elle a eu un bébé, avec lui peut-être, et puis du coup, elle lui laisse. Voilà,
comme
elle dit,
ça.
Tu t'en occupes, voilà, elle a quelques mois, elle s'appelle Gloria, et voilà, tiens, je te la laisse, et puis je me casse. Voilà. Du coup, lui, il n'était pas prêt, j'étais pas prêt à être papa, déjà c'était son ex, donc est-ce que c'est vraiment son gosse? Il sait même pas, enfin... Donc du coup, il est avec cette petite fille.
Au début, c'est une galère.
Bah oui, il sait pas trop quoi en faire. Il veut la rendre à sa mère parce que non, j'en veux pas moi.
Je veux ma liberté.
Donc il part un peu partout pour essayer de la retrouver. Il se retrouve à Londres parce que il a réussi du coup à trouver un peu sa trace. Il part à Londres pour essayer de retrouver sa mère. Il n'arrive pas, aucun moyen de le trouver. Et finalement, le père et sa fille vont passer 8 années ensemble. Finalement, hein, voilà, il va la garder, puis au bout d'un moment, t'es bien obligé de t'en occuper. Hein. Donc il va passer 8 ans avec elle à Londres, et ils vont devenir inséparables, hein, le père et sa fille, voilà. Donc c'est un peu le père idéal, du coup, il devient cascadeur pour le cinéma, il invente justement à sa fille, il lui invente un peu une mère, en lui disant que sa mère a été géniale et tout, alors que voilà, il la connaît même pas en fait. Jusqu'au jour où ça recommence. Hein,
elle revient.
Elle débarque de nulle part. Et elle veut récupérer sa fille.
Bah oui.
Mais bien sûr. Donc voilà, c'est ce que vous allez découvrir dans ce film. Ferme intention de récupérer sa fille, sauf que l'autre vient de passer 8 ans avec, c'est bon quoi.
Mais non, il l'aime beaucoup.
Bah oui,
c'est ça le truc.
Maintenant.
Bah oui. Demain, tout commence, c'est à découvrir ce jour au cinéma. Il est dès 18h, le dimanche 25 décembre à 20h30, ou bien le lundi 26 décembre à 18h et le mardi 27 décembre à 20h30. On poursuit ses projections au cinéma. Il est avec Rogue One.
Ah là là, ça y est, enfin il arrive à l'île-dieu, le nouveau volet de Star Wars, enfin un film dérivé, de Star Wars, hein. Un des trois films dérivés, parce qu'il va y en avoir deux autres. Le deuxième est prévu pour 2018, qui suivra un peu le Han Solo, mais quand il était un peu plus jeune. Voilà, c'est un peu un spin-off sur lui.
Ah, moi, je suis perdu. De toute façon.
Ah oui, non, mais tu vois.
Je suis perdu dans les Star Wars.
Je vais tout expliquer.
Ah, merci.
Et le troisième sera 2020. On ne sait pas trop encore vraiment de quoi ça va parler. Et donc, ces trois films un peu dérivés de la saga originale sont appelés justement Star Wars Story, hein, une histoire de Star Wars. Donc, c'est Rogue One Star Wars Story. C'est réalisé par Gareth Edwards. Alors, Gareth Edwards, il faut savoir que c'est son deuxième gros film, là. Il n'a pas réalisé beaucoup. Il avait fait le remake de Godzilla en 2014, qui est plutôt réussi. Hein. C'est tout ce qu'il avait fait. Donc là, il lui file carrément les commandes d'un Star Wars. Hein. Donc,
gros cadeau tout de même.
Ah ben, gros cadeau. Puis, voilà, apparemment, ils ont bien fait, puisque les critiques le trouvent très bien.
Dithyrambique.
Ouais. Alors. Donc pour ceux qui auraient suivi un peu Star Wars, parce qu'il y a des épisodes avant, après, qui sont sortis après, mais c'était à mettre avant, enfin voilà, c'est un peu le bazar.
On est bien d'accord.
Voilà, donc il y a la première trilogie avec les épisodes 4, 5, 6 qui est sorti début des années 80, hein, 77, fin des années, début des années 80. Et puis après, ils ont sorti épisode 1, 2, 3 dans les années 2000. Voilà, donc voilà, on remet un peu des trucs dans l'ordre.
Merci Philippe.
Mais alors, où placer celui-là, Rogue One? Hein, vous allez me dire, parce qu'il est dérivé de Star Wars, mais ça suit un peu la trame de l'histoire quand même. Eh bien, en fait, il est entre les épisodes 3 et épisode 4. Voilà, juste avant l'épisode 4, qui était à la base le premier film qui était sorti en 77, hein, Star Wars, un nouvel espoir. Eh bien, c'est juste avant ça, puisque en fait, vous savez, dans le générique, il y a le bandeau qui défile, hein, qui explique un peu le résumé de l'histoire, enfin pas le résumé, mais un peu le synopsis de l'histoire, de ce qui se passe, qui met un peu le scénario. Eh bien, il y avait une phrase... Justement dans ce film qui déroulait, où c'était marqué « Des espions rebelles ont réussi à voler les plans secrets de l'arme ultime de l'Empire, l'étoile de la mort, une station spatiale blindée avec assez d'énergie pour détruire une planète. » Voilà. Il y avait cette phrase dans le bandeau qui déroulait. Mais alors les gens se sont dit « Mais c'est qui ces espions rebelles qui ont réussi à voler les plans de l'étoile noire ?» Eh bien, vous découvrirez ça dans ce film. Voilà, puisque ça va suivre... l'escadron qui s'appelle Rogue One, qui est parti justement voler les plans de l'étoile noire. Eh oui, parce que à la fin de l'épisode 3, eh bien Dark Vador apparaissait, et avec lui, on avait le début d'une étoile de la mort qu'il projetait de construire. Et puis dans l'épisode 4, eh bien là, elle était construite et tout ça, du coup, mais voilà, il fallait la détruire. Donc, eh bien, on va suivre justement l'escadron qui est parti à la recherche de ces plans de l'étoile noire pour la voler et puis ensuite la détruire dans l'épisode 4. Voilà, très bien. Donc,
bien résumé, merci.
Voilà, j'ai essayé.
T'as tout replacé.
Oui, j'ai replacé un peu le contexte parce que c'est, y a beaucoup de choses.
Alors, on est bien d'accord.
Donc, qu'est-ce que vous allez voir dans ce film? On est en pleine période de guerre civile, puisque eh bien, la nouvelle arme de l'Empire est là, l'étoile de la mort. Hein, et du coup, bah, tout le monde a un peu les boules parce que ça peut détruire une planète comme ça d'un coup. Donc forcément, bah, ça fout un peu les boules. Cette nouvelle arme qui fait également office de base militaire, hein, puisque voilà, c'est là-bas où tout l'Empire, y a tout le monde qui se retrouve là-bas, les vaisseaux et tout. Et alors, il y a un petit groupe de résistants qui va s'unir justement pour voler ces plans de l'étoile noire. Ils agissent pour le compte de l'Alliance Rebelle, avec donc une jeune femme solitaire qui s'appelle Jean Erso, qui va être recrutée, chargée de cette mission suicide, hein, on peut dire ça comme ça. Alors elle est toute seule parce qu'en fait ses parents ont été enlevés quand elle était petite par justement l'Empire et puis du coup elle veut un peu se venger de ça. Donc elle est chargée de cette mission suicide avec un coéquipier, toute une équipe de mercenaires, avec des droïdes forcément et des petits robots partout. Donc ils vont partir un peu sur plein de planètes comme on a l'habitude dans Star Wars, hein, il y a tout un tas de planètes qu'on va découvrir, des nouvelles et puis des qu'on connaît déjà. Il y a la planète Scarif par exemple, une planète tropicale, voilà, qui ont abrité un peu les premiers Jedi, les premiers adeptes de la Force. Voilà, ils étaient sur cette planète, elle est contrôlée par l'Empire, du coup il y a une grosse base dessus. Ils vont être confrontés aux forces impériales avec ces immenses les quadripodes impériaux, tu sais, les gros trucs comme des éléphants là, qui marchent, qui s'appellent les TBTT. Hein, voilà. Voilà, c'est des AT-ACT. Voilà, c'est une version plus grosse encore. Hein. C'est pour ça, ça va être des trucs un peu gros. Il y a des vaisseaux spatiaux partout. Et bien voilà, ils vont essayer d'aller voler les plans, confrontés à tous les Stormtroopers et à Dark Vador qui sera là et qui supervise un peu le truc. Parce que comme il est entre l'épisode 3 et 4, et bien justement, c'est là où Dark Vador est apparu. Et ça marque justement le retour de Dark Vador au cinéma, hein, parce que ça fait 11 ans qu'on l'avait pas vu, après la sortie de l'épisode 3 de Star Wars, où on le découvrait juste à la fin, voilà. Eh bien alors, voilà, on va le voir. Dark Vador qui reprend d'ailleurs sa voix originale en anglais, hein, pas en français malheureusement. La voix de James Earl Jones qui avait fait les premiers épisodes dans les années 80. Eh bien là, il revient faire la voix de Dark Vador. En français, on n'a plus le même doubleur. C'est dommage, hein, on n'a plus le même doubleur qu'au début. Enfin voilà, donc les critiques... positive, hein, plutôt positive pour ce film. Il y en a certains qui ont dit qu'ils ont retrouvé un peu l'âme de la première trilogie dans les années 80 et tout. Il y en a qui disent que ça a été brillamment mis en scène avec du sang neuf un peu, hein, et que Gareth Edwards, le réalisateur, a réussi largement son pari sur Rogue One et puis qui apporte une nouvelle pierre à l'édifice de Star Wars. Alors, il n'y aura pas de Jedi dans ce film, hein. Ça a été déjà annoncé depuis un petit moment, il n'y a pas de Jedi, puisque voilà, on suit un peu des rebelles, tout ce qu'il y a de plus normal, donc pas de Jedi dans ce film, mais voilà, ce sera très bien aussi. La musique, un petit point sur la musique, a été composée par Michael Giacchino, qui n'en est plus à un coup d'essai, lui, voilà, il en a fait beaucoup, il a fait beaucoup de Disney... La planète des singes, notamment Doctor Strange aussi, qu'on a eu il n'y a pas longtemps au cinéma, c'est lui, enfin voilà, lui, c'est un bon, hein, c'est sûr. Il reprend quelques thèmes de John Williams, qui ont été composés, sûrement la musique de Dark Vador, bien sûr, hein, qu'on va le voir. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à aller le voir, Rogue One, donc au cinéma il est.
C'est ce jour, à 21h, le jeudi 22 décembre à 18h, le samedi 24 décembre aussi à 18h, ou bien le lundi 26 décembre à 20h30, Martin va Ena à découvrir également cette semaine.
C'est une animation et le reste du titre, c'est La légende du bout du monde. Animation donc de 1h47 et c'est vraiment un régal réalisé par John Musker et Ron Clements. Et c'est les studios Disney, bien entendu, qu'avaient déjà créé, rappelez-vous, La Petite Sirène et Aladdin. Alors, ça se passe, eh ben, il y a 3000 ans, il y a des marins extraordinaires qui avaient sillonné l'océan Pacifique pour découvrir les innombrables îles de l'Océanie. Et puis, tout à coup, il n'y a plus de ces marins extraordinaires, ils ont cessé de voyager et on n'a jamais compris pourquoi ils s'étaient arrêtés. Voilà. Et Vaiana, c'est une jeune fille très téméraire qui, pour suivre la légende, va se lancer dans une traversée très audacieuse pour poursuivre la quête de ses ancêtres. Elle va rencontrer Maui, un demi-dieu qui est beau, musclé, tatoué et qui va partager avec elle les épreuves et les rencontres dans son voyage. Alors Vaiana est une héroïne très courageuse qui aime la nature et veut sauver son île et le monde. Alors c'est un film qui est à la fois récit épique, une quête initiatique et un conte plein d'humour, d'émotion. Et ça nous emmène dans un véritable petit paradis, dans une végétation tropicale des îles et un océan fabuleusement beau, grâce à des effets spéciaux étonnants de finesse et des techniques d'animation vraiment enchanteuses. Alors c'est beau, c'est original, c'est aventureux, c'est dépaysant. Encore une fois, on est plongé dans la magie de Disney qui décerne un message de protection et d'amour de la nature, c'est ce qui est toujours un plus.
Vaiana, cette semaine au cinéma LA, c'est demain jeudi 22 décembre dès 16h ou bien le lundi 26 décembre aussi à 16h. Philippe, ça n'a rien à voir, un film de science-fiction, c'est Premier Contact.
Ouais, un film américain réalisé par Denis Villeneuve qui avait réalisé Sicario en 2015, un film qui traitait des cartels en Amérique du Sud, voilà, qui était très bien fait d'ailleurs. On va retrouver un peu l'idée originale dans ce film d'ailleurs. Il y a des extraterrestres, il n'y a pas de cartel, mais voilà, c'est pas un film de guerre avec des extraterrestres, c'est voilà, des extraterrestres qui arrivent et c'est un peu comment la population voit le truc et tout ce qui se passe autour.
Un film plutôt psychologique.
Voilà, c'est un peu plus réfléchi que de faire la guerre aux extraterrestres, hein, qui sont peut-être très gentils d'ailleurs, on ne sait pas, parce que là, ils arrivent et ils restent dans leur vaisseau et on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent. Voilà, donc il faut trouver comment communiquer avec eux, tout ça, et en même temps, t'as la population derrière qui commence à avoir peur un peu, poser des questions et tout. Donc voilà, c'est vraiment un peu plus psychologique qu'un truc de guerre avec les extraterrestres.
Ça fait penser un petit peu à la série V, non ?
Oui, peut-être, ouais, hein, voilà, un truc un peu
dans
comme
le côté
ça.
Psychologique.
Ouais. Ou District 9 aussi, je crois, qui était, voilà, où ils avaient parqué des extraterrestres dans un camp et puis ils vivaient avec et tout, mais c'était un peu
pour
plus.
Pour essayer de les comprendre.
Ouais, voilà, c'était un peu plus réfléchi que ça. Donc le scénario, il a été écrit par Eric N. Etzeren qui est adapté d'une nouvelle de Ted Chiang qui s'appelle L'histoire de ta vie. Voilà, donc tout ça, ça a été déjà écrit et ça a été mis en film par Denis Villeneuve. Alors, ben voilà, je disais, hein, il y a des 12 vaisseaux extraterrestres qui apparaissent comme ça, subitement, dans l'atmosphère terrestre. Et ils sont stationnés à quelques mètres au-dessus du sol. Hein. Ils ne sont pas très hauts, ils sont juste à quelques mètres. On les surnomme les coques, parce que c'est vrai qu'ils ont une forme de coque un peu. Une forme de coque. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, les buts et le choix des extraterrestres, parce que on se dit, les extraterrestres, s'ils arrivent, ils vont choisir des grandes villes, des trucs voilà, pour mettre leur vaisseau au-dessus des grandes villes. Mais là, non, et on ne sait pas, ils ont choisi des sites un peu au hasard, on ne sait pas vraiment leur logique, on ne comprend pas, on ne sait pas communiquer avec eux. Donc, l'armée va recruter Louise Banks, qui est jouée par Amy Adams, qui est une experte en linguistique, qui va essayer de justement de comprendre comment eux ils communiquent entre eux déjà. Est-ce que nous on peut réussir
interagir
avec eux, comprendre leur communication, enfin tout ça. Voilà, il y a tout un truc réfléchi là-dessus, une énigme donc qui constitue leur présence. Il y a des réactions dans le monde entier qui sont parfois extrêmes, hein, parce que forcément on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis l'humanité va se retrouver bientôt au bord de un peu une guerre, quoi, parce que ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, le gouvernement fait rien, enfin voilà, hein, c'est le truc habituel, quoi. Donc on verra tout ça dans ce film, mais ils n'ont pas beaucoup de temps, puisque ils savent pas vraiment ce qui va se passer. Donc plus ils restent là longtemps, moins on sait ce qui va se passer.
Plus les gens se posent des questions.
Donc elle va prendre des risques, hein, pour essayer de communiquer avec eux, qui pourraient lui coûter peut-être la vie, mais peut-être détruire l'humanité tout entière, on ne sait pas. Parce que s'il y a pas un mauvais message en disant « oui, non, on est des méchants, tuez-nous », c'est pas ce que je voulais dire. Enfin voilà, on ne sait pas trop. Alors il y a des très bonnes critiques là-dessus, sur ce film aussi. Hein. Alors il y a Amy Adams dans ce film, qu'on a retrouvé avec un film de Tim Burton qui s'appelait Big Eyes. C'est également la Lois Lane des derniers Superman, de Man of Steel. Voilà, c'est elle. Jeremy Renner qui est là également en Mission Impossible. Jason Bourne, il a fait des Marvel, Œil de Faucon, c'est qu'il interprétait, voilà, dans les Marvel, dans Avengers et tout ça. Et puis Forrest Whitaker, qu'on retrouve dans Rogue One, hein, comme par hasard, et puis qui avait aussi pas mal marché dans Le Majordome en 2013, voilà, où il jouait le rôle du majordome de la Maison Blanche. Eh bien, on les retrouve tous les trois dans ce film, Premier Contact.
Premier Contact à découvrir ce jeudi 22 décembre dès 20h30 en version française au cinéma Élé, le samedi 24 décembre à 20h30 en version originale, ou bien le mardi 27 décembre dès 18h en version française. La grande course au fromage, Philippe.
Ah ben là, un film d'animation, vous avez bien sûr compris.
Forcément.
C'est très drôle. C'est un film norvégien. C'est à partir de 3 ans, mais c'est pour tout le monde, hein, pour toute la famille. Alors, c'est des images en pâte à modeler, voilà, un peu comme Wallace et Gromit à l'époque. Mais voilà, je crois que c'est pas du niveau de Wallace et Gromit, mais c'est très drôle quand même.
C'est sympathique à
découvrir. Voilà, il y a plein de personnages qui bougent dans tous les sens. Alors, nous suivons l'histoire de Solan, Ludvig et Féodor. On les connaît pas trop, mais en Norvège, ils sont ultra connus. Voilà, c'est les héros de toute une génération. Le réalisateur, il a grandi avec eux, parce que c'est des personnages qu'ils connaissent bien, qui font partie de la culture populaire norvégienne. Voilà, c'est un peu comme en Grande-Bretagne avec les Teletubbies. Voilà, par exemple, c'est les héros de toute une génération. Regardez ça quand on était gosse et tout. Et donc là, Solan, Ludvig et Féodor vont participer à une grande course au fromage qui vont les opposer au village voisin. Et puis, ils vont essayer de montrer qu'ils sont des vrais champions. Il va même parier sa maison qu'il partage avec quelqu'un d'autre, il la parie pour le jeu, pour la course. Ouais. Donc voilà, celui qui le partage, il sait même pas qu'il a parié la maison en plus. Ils vont affronter plein d'obstacles, des adversaires de taille aussi, une grande aventure pour remporter la course et puis sauver leur maison. Ils vont braver des montagnes, des lacs gelés, des précipices et tout ça avec un fromage. Voilà, parce qu'ils font la course, mais avec des fromages. Voilà, c'est rigolo.
C'est pour ça que ça s'appelle la grande course
au fromage. C'est la grande course au fromage, donc c'est rigolo, c'est à découvrir à partir de 3 ans, et pour toute la famille aussi, parce qu'il y a quelques blagues que, voilà, on comprend, nous les adultes et les enfants, pas forcément, donc ça fait rire les deux, donc c'est ça qui est drôle aussi.
Le vendredi 23 décembre, au cinéma Élé, dès 16h, pour la grande course au fromage. Baccalauréat, en version originale sous-titrée cette semaine, Philippe.
C'est un film roumain. roumain, réalisé par Christian Mungiu. Alors lui aussi, très connu, hein. Il a été Palme d'Or à Cannes en 2007 pour son film 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Il a été jury du festival d'ailleurs de Cannes en 2013. Voilà. Et puis son film Baccalauréat là, a été présenté en sélection officielle au festival de Cannes cette année, où il a d'ailleurs remporté le prix de la mise en scène. Il y a également des très bonnes critiques sur ce film. Hein. Donc nous allons suivre l'histoire de Roméo, qui est un médecin dans une petite ville en Transylvanie, là-bas, en Roumanie. Et puis il met tout en œuvre pour que sa fille Elisa soit acceptée dans une grande université anglaise prestigieuse. Voilà, il fait tout pour sa fille. Donc sa fille est une très bonne élève. Tout se passe très bien là-bas, en Grande-Bretagne. Il ne reste plus qu'une formalité. Une formalité pour elle, c'est obtenir le bac. Voilà, elle est très bonne élève, elle s'en fout, j'ai dit le bac, il est déjà dans la poche. Très bien.
Jusque-là, tout va bien.
Le problème, c'est que Elisa va se faire malheureusement agresser quelques jours avant le bac, et ça va complètement la perturber. Donc ce précieux sésame qui est le bac commence à partir un peu hors de portée d'elle, finalement, elle n'arrive plus trop. Et puis, Roméo s'en veut aussi un peu son père, puisque lui, il a fait toute sa vie pour qu'elle ait son bac. Et puis finalement, tout commence à s'effondrer, donc il se remet aussi lui un peu en question. Enfin voilà, et tout un truc qui part, c'est un peu psychologique aussi.
Un drame psychologique.
Ouais, ouais voilà. Alors Christian Mungiu, le réalisateur, a défini un peu son film comme une histoire sur les compromis et les principes, sur les décisions et les choix, sur l'individualisme et la solidarité, mais aussi sur l'éducation, la famille et sur le vieillissement. Voilà, c'est un film qui parle de la vie en gros, hein, voilà, ça parle un peu de tout. C'est en gros l'histoire d'un parent qui se demande ce qu'est le mieux pour son enfant, si il doit être préparé à devenir un peu un survivant en ce monde, ou s'il doit se battre pour toujours être honnête et puis essayer de faire changer un peu le monde tant qu'il le peut. Voilà, donc un film, une belle histoire à découvrir pour ce film qui a eu, je rappelle, le prix de la mise en scène au Festival de Cannes.
Baccalauréat cette semaine en version originale sous-titrée ce vendredi 23 décembre dès 18h au cinéma. Il est beaucoup plus léger. Une comédie française, Papa ou Maman, deuxième volet.
Ah oui, voilà. Une comédie, ça va rire un peu, hein, ça va faire du bien.
Le premier était très drôle.
Ouais, c'est réalisé par Martin Bourboulon, qui avait réalisé d'ailleurs le premier en 2015.
On peut dire de l'humour noir.
Ouais, c'est un peu d'humour. Oui, il y a beaucoup d'humour noir. Alors, je rappelle un peu dans le premier film, je replace un peu les faits. On avait Florence et Vincent Leroy qui étaient en couple, tous les deux. Ils ont tout réussi dans leur vie, leur métier, leur mariage, leurs enfants, tout ça. Mais ils veulent se séparer, ils veulent divorcer et ils veulent réussir leur divorce aussi. Mmh. Voilà, parce que c'est important aussi.
Bah oui. Bah oui. Donc, pour les enfants, moi.
Bah oui. Donc, du coup, ils ont eu la promotion qu'ils voulaient, tous les deux. Donc, tout va bien encore pour eux. Et puis, du coup, ils vont se déclarer la guerre un peu, et puis ils vont tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. Surtout, ils en veulent pas.
Eh oui.
Bah oui, chacun de leur côté. Mais non.
Non, non. Alors, garde des enfants. Non, c'est moi. Non.
Ils vont faire un peu n'importe quoi pour leurs enfants. Voilà, ils vont dire, ils vont faire n'importe quoi pour que leurs enfants disent à un parent ou l'autre que oui, non.
Non, tu me gardes.
Voilà, non, c'est nul ce qu'on fait avec papa, c'est nul ce qu'on fait avec maman, non, il me fait pas bien à manger, tout ça, enfin voilà.
C'est exactement ça.
Ils font tout pour que les enfants veulent plus d'eux, en fait, voilà. Et donc, dans ce deuxième volet, 2 ans ont passé, donc ils ont un peu raté leur séparation, du coup. Mais ils ont réussi un peu leur divorce et y a de nouveaux amoureux qui vont apparaître dans la vie de Vincent et Florence. Et qui vont mettre un peu le feu aux poudres. Et donc, le match entre les deux ex-époux va recommencer.
Ouais.
Éternellement. Hein, donc, voilà. C'est, donc, il y a plein de gags en fait, encore là-dessus. Et justement, pour écrire un peu le scénario de ce film, il y a Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte qui sont. Ils ont écrit le scénario à eux deux avec le réalisateur. Et ils ont dit attends, parce qu'on va essayer de faire des gags avec les enfants, tout ça. Mais il faut savoir. Faut que ça soit crédible, quoi. Voilà. Donc, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de tester leurs gags sur leurs propres enfants.
Ah, ça, c'est drôle.
Eh oui, c'est drôle. Alors, ils ont demandé.
C'est peut-être pas drôle pour les enfants, par contre. Hein.
Ils ont demandé un peu à leurs enfants ce qui les dérangeait le plus dans leur relation avec eux. Et puis, les enfants ont répondu aussitôt que le pire, ce qui pouvait arriver, c'est qu'ils leur fassent honte. Hein, qui leur foutent la honte.
C'est trop la honte. Ouais.
Voilà. Et ben justement, alors ils ont pris ça au pied de la lettre.
Ah,
et il y a une scène dans ce film où il y a Marina Foïs qui s'incruste dans la boum de sa fille. Enfin voilà, ils sont entre copines et tout. Et puis t'as la mère qui débarque. Ah, ça fout trop la honte. Voilà, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont fait dans ce film.
T'as rien à faire là.
Ben oui, non, c'est trop, trop,
oh, c'est trop,
trop la ton, quoi. Donc ils ont demandé à leur gosse que, ce qu'était le pire et du coup ils l'ont fait dans le film. Voilà, forcément, pour que ça reste un peu crédible.
Papa ou Maman 2 à découvrir cette semaine au cinéma. Il est ce vendredi 23 décembre dès 21h ou bien le lundi 26 décembre à 18h au cinéma. Il est Martine, on poursuit avec Louise en hiver.
C'est une animation de Jean-François Laguillonni. C'est à la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison qui dessert la petite station balnéaire de Billingen partir sans elle. La ville devient déserte, le temps rapidement va se dégrader, les grandes marées d'équinoxe surviennent, l'électricité va être coupée, les moyens de communication également. Alors, fragile, coquette, mais bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle n'a pas peur, elle considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude, et ses souvenirs vont profiter de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure. Alors, jusqu'à ce qu'une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l'ordre, c'est un très beau poème qui parle de la vieillesse et de l'amour de la vie, avec beaucoup de tendresse, des couleurs pastels, une harmonie des dialogues et un superbe graphisme. Donc, un très joli film à voir.
Louise en hiver à découvrir cette semaine au cinéma. Elle est le dimanche 25 décembre dès 18h. Merci Martine. On se retrouve en grande forme dès la semaine prochaine.
Bah écoutez, comme d'habitude, on est gâtés par le ciné. Il est, je crois qu'on va beaucoup se voir au cinéma quasiment tous les soirs de la semaine.
Et merci Philippe, à très bientôt.
Ah ben, on se retrouve au cinéma, forcément.
Demain, dans Je vous dis pas, on vous parle du réveillon du 31 décembre qui aura lieu sur l'Île-Dieu. On en parle plus en détail avec Violetta de l'association Frédéric Téléthon Il est et Patrice Bernard. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.